France Info. France Info, les informés, Simon Les Barons.
Est-ce par ce genre de performance que l'on resacralise la fonction présidentielle ? Emmanuel Macron a passé plus de 12 heures hier dans les allées du Salon de l'Agriculture. Le record de François Hollande est battu. Et après, au-delà des chiffres et des images, la visite incontournable du chef de l'État au Salon a-t-elle encore un sens ? Au moins, elle permet de mesurer l'inquiétude autour d'un certain nombre de dossiers sensibles, l'interdiction du glyphosate. Emmanuel Macron s'est montré ferme face aux agriculteurs. Nicolas Hulot, lui, aujourd'hui, se dit prêt à faire des exceptions. La réforme de la SNCF, Emmanuel Macron a eu un échange vif avec un cheminot. Le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez, critique son style aujourd'hui. Alors nous allons parler de tous ces sujets ce soir avec nos informés. Nous nous demanderons aussi si ce que l'on appelle la communauté internationale sert encore à quelque chose alors que les habitants de la Ghouta orientale en Syrie sont toujours sous le feu du régime de Bachar al-Assad. Les informés ce soir, je vous les présente, Hervé Gocho, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef au service économie et sociale de France Télévisions. François Hernenveen, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef à La Croix. Dominique de Montvallon, bonsoir,
bonsoir
à vous. Éditorialiste politique et Eugénie Bastier, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste au Figaro, rédactrice en chef politique de la revue Limite. Bonsoir à tous et bienvenue. Je ne sais pas si vous avez déjà marché dans les salons, dans les allées du salon de l'agriculture, mais je peux vous dire qu'avec le bruit et la foule, au bout de 3 heures, on est déjà totalement épuisé. Emmanuel Macron, lui, a passé 12h30 hier au parc des expositions de la Porte de Versailles, 12h30 à serrer les mains de ceux qui applaudissaient, à répondre à ceux qui sifflaient, faire face aux éleveurs et aux cultivateurs inquiets pour leur avenir. C'est déjà une performance physique qu'il faut reconnaître au chef de l'État. Est-ce que c'est ce qui était venu chercher tout simplement le président de la République d'ailleurs, Hervé Gocho, l'image et c'est tout ?
Non, je pense qu'il a fait plus que ça. Je pense qu'il faut distinguer la forme et le fond. Hein. Sur la forme, c'était sa première sortie en tant que président. Il était déjà venu l'année d'avant en tant que candidat, où il avait reçu un 9 déjà à l'époque.
Oui.
C'était aussi une année où François Hollande, président à ce moment-là, s'était fait copieusement siffler, peut-être encore plus qu'Emmanuel Macron hier. Alors sur la forme, évidemment, hein, c'est ni Jacques Chirac qui tâtait le cul des vaches,
oui,
et qui était très proche de la FNSEA et des agriculteurs, mais c'était pas non plus Nicolas Sarkozy et le casse-toi pauvre con.
Mmh.
On était quelque part, il a trouvé un ton qui était différent, il est allé au contact, il a pas éludé les questions, ceux qui sifflaient, il est allé au contact, il est allé discuter avec eux, il a rien lâché, mais il s'est pas énervé non plus. Ça, c'est pour la forme, c'était plutôt pas mal. Et puis sur le fond, faut pas oublier qu'il y a toute une dramaturgie, hein, autour du salon de l'agriculture qui est très classique, mais faut pas oublier que la FNSEA est finalement plutôt favorable à Emmanuel Macron, à ses positions sur la limitation des seuils de vente à perte, sur ses positions sur les aides européennes, le déblocage de 5 milliards d'euros de budget d'investissement sur 5 ans. Donc voilà, il a bien avancé, je trouve, sur ses deux pieds.
Il y a un point plus sensible qui est le glyphosate et dont on va parler aussi.
Absolument.
Parce qu'on va revenir sur le fond dans cette émission ce soir. Mais sur la forme, Eugénie Bastier, Hervé Gocho évoquaient la difficulté, l'exercice risqué de la visite au Salon de l'Agriculture avec le casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'Emmanuel Macron a réussi son passage de Versailles hier?
Je pense qu'il a réussi. On est dans sa com habituelle, hein, qu'on pourrait appeler le style Whirlpool, hein, ce qu'il avait employé,
oui,
lors de l'entre-deux-tours de la présidentielle, lorsqu'il était allé voir les ouvriers de Whirlpool et qu'il s'était mêlé à la foule et qu'il avait répondu pied à pied aux objections, tandis que Marine Le Pen faisait des proclamations un peu démagogiques. C'est son pari de refuser la démagogie tout en évitant d'être dans sa tour de verre, c'est-à-dire d'aller au contact sans céder à la démagogie, ce qui est vraiment une équation compliquée qu'il essaie de remplir. Il a dit « Je ne suis pas là pour plaire, mais pour faire », avec la volonté de ne pas céder sur ses positions, tout en allant en contact, répondant aux agriculteurs. Et en faisant ça, il construit un peu une figure de l'ennemi, son ennemi politique, qui est toujours celui qui, le Yaka Faucon, celui qui dit « il faudrait faire ça », lui il dit « moi je suis dans une position réaliste », et finalement il envoie balader tous ses ennemis déclinistes qui ne font rien, etc. Donc il construit comme ça cette image de président réaliste qui fait le maximum et qui va sur le terrain. Après, sur le fond, on peut discuter en effet de ce qu'il va faire concrètement pour les agriculteurs. Il a quand même un discours en disant voilà, le problème c'est pas Bruxelles, c'est nous, c'est la France, avec un discours qui est quand même en parlant voilà, il faut rompre avec les vieilles habitudes françaises. Il parle des entrepreneurs agriculteurs, donc avec voilà, c'est toujours ce discours très nouveau monde. Mais la question essentielle, la question de fond, c'est est-ce que dans un marché ouvert, les agriculteurs français peuvent s'en sortir? Je n'en suis pas sûre. Et aujourd'hui, quand on voit que on a signé un accord avec le Mercosur, avec l'Amérique du Sud, le président de la République y est favorable.
Et Nicolas Hulot, d'ailleurs, dont on va parler aussi, dit qu'il n'y est pas favorable en l'état pour l'instant.
Qui va et potentiellement faire arriver 99 000 tonnes de viande d'Amérique du Sud avec des normes sanitaires totalement différentes des nôtres sur le marché français, ce qui pourrait être fatal à l'élevage. Et donc là, ça, c'est un sujet de fond, à voir ce qu'il va faire.
Dominique de Montvallon, je vous voyais faire la moue.
Non, d'abord sur votre question,
oui.
je pense qu'il a parfaitement réussi une performance politique qui n'était pas évidente pour lui et qui était absolument indispensable. Il était présenté, il l'est toujours d'ailleurs par ses adversaires de droite et de gauche, comme le président, peut-être des riches, mais dans le cas précis, des villes, des métropoles, Laurent Wauquiez... dont on sait que les phrases sont carrées et l'esprit de finesse n'est pas toujours au rendez-vous, mais au moins on comprend ce qu'il veut dire. Il a dit qu'il avait une véritable, dans le JDD il y a quelques semaines, une véritable haine de la province. Enfin, sa portraiture, la vision que certains tentaient de donner d'Emmanuel Macron. Donc cette performance de 12h30, c'est un record qui ne pourra pas être battu puisqu'il n'y a plus de nocturne maintenant. Donc,
de l'ouverture des portes
jusqu'à la fermeture. Le maximum.
Plus long.
Et puis, je pense, alors, il a montré, manifesté de l'empathie dans des circonstances parfois un peu délicates aussi. Et puis, j'ajouterais juste une chose, c'est que il a aussi, au travers des bouts de dialogue que sont ces zigzags dans le salon d'agriculture lui ont fait vivre, il a montré aussi que quand on parle des agriculteurs, c'est pas un monde uniforme. On va en parler sur le glyphosate et sur d'autres choses. Il y a des contradictions. Alors, prenons par exemple, c'était juste là que je vous écoutais, mais y a une partie des agriculteurs qui demandent que la France exporte davantage ou les aide à exporter davantage. Une autre partie des agriculteurs, pour d'autres raisons, aurait envie que on arrête, que les barrières soient fermées, qu'on se retrouve classiquement dans l'hexagone. Je simplifie un peu, je caricature donc, je l'admets, mais il y a quand même de ça. Bon, alors donc, il y a une pédagogie de ce zigzag dans le salon d'agriculture qui est un rendez-vous à la fois politique et finalement quelque part culturel.
Et on continue de parler de cette visite du président de la République. Première visite d'Emmanuel Macron en tant que chef de l'État au Salon de l'Agriculture. Dans un instant, dans les informés, juste après l'essentiel de l'info, 20h11, Diane Ferchit.
Un sans-abri de 35 ans retrouvé mort à Valence, vraisemblablement à cause du froid. La France va être confrontée à des températures glaciales dans les prochains jours, les plus froides de l'hiver. 37 départements ont déclenché le plan grand froid. La Haute-Savoie est en procédure froid extrême. À partir de minuit, les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et du Var seront en vigilance orange à la neige et au verglas. Deux attentats déjoués en France depuis le début de l'année, annonce aujourd'hui du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Les projets d'attaque visaient une enceinte sportive dans l'Ouest ainsi que des soldats de l'opération Sentinelle dans le sud. Ces projets n'étaient pas encore totalement finalisés, a précisé le ministre. Les personnes interpellées étaient surveillées par le renseignement. Deux hommes en garde à vue à Toulouse après l'agression de deux policiers la nuit dernière. Les deux agents attaqués alors qu'ils intervenaient pour un cambriolage. Les agresseurs âgés de 23 et 33 ans ont été interpellés. Seul l'un des deux était déjà connu des services de police. Ils seront déférés au parquet demain. Les dirigeants français, allemands et russes prônent la poursuite des efforts communs pour la mise en place de la trêve en Syrie. Berlin et Paris demandent à Moscou d'exercer une pression maximale sur le régime syrien. Des bombardements ont à nouveau touché le fief rebelle de la Ghouta orientale aujourd'hui, alors que l'ONU réclame une trêve. Elle a adopté hier une résolution pour un cessez-le-feu humanitaire de 30 jours.
France Info. Les informés, Simon Le Baron.
Emmanuel Macron qui adopte une poule offerte par les éleveurs de Loué et qui promet de la ramener à l'Élysée où il promet de mettre un poulailler. Emmanuel Macron qui répond à un agriculteur déguisé en vache. Voilà des images qui ont fait le tour des télés et des réseaux sociaux hier. Alors il y a le fond dont on a parlé, mais il y a aussi ces images-là. François Hernenveen, qu'est-ce que vous pensez de ces symboles et est-ce que ça sert à quelque chose?
Chacun autour de cette table l'a dit avec ses mots. Il y avait une formidable opération de com', commencée sous les sifflets, terminée sous les compliments de la FNSEA pour son engagement à négocier dur autour de la PAC. Donc on était dans une séance de 12 heures, on y ajoute une poule, ça fait une ambiance. Mais après ça, on pourrait faire, mais on n'a pas le temps ce soir, de faire la liste des problèmes que rencontrent les agriculteurs aujourd'hui. De leur rémunération, aux conditions de production, l'attention, parce que Dominique l'a dit tout à l'heure, c'est pas du tout un monde unifié. Mais le problème fondamental, quand on entend la revendication des agriculteurs, il faut entendre aussi autre chose. Ces pans entiers du territoire qui sont aujourd'hui laissés proprement en jachère et dont personne ne s'occupe sérieusement et dont la politique conduite par le gouvernement, parfois, est assez menaçante. Je prends un exemple, on a passé une partie de la semaine sur la question de la fermeture des urgences de nuit à l'hôpital de Clamecy, sous-préfecture de la Nièvre. Tout le monde en a parlé parce que 30 maires des communes, de la communauté de communes autour de Clamecy, ont choisi de démissionner pour marquer leur réprobation. Ils n'avaient pas été consultés. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et du coup, là, dans le cas précis, je continue sur cet exemple, l'État recule, l'ARS accepte maintenant d'engager une discussion avec les élus, c'est-à-dire, au fond, ce que témoigne l'ambiance ou les craintes dans le monde agricole, c'est aussi les craintes d'une partie significative de la population qui n'a pas la chance d'habiter dans les villes plutôt richement dotées, plutôt aidées, plutôt pôle de développement, plutôt pôle d'investissement économique, etc. Cette tension existe en France et il faut la prendre en compte. Donc, on peut passer 12 heures au salon de l'agriculture, tenter de rassurer. Il y a d'ailleurs dans les dispositions gouvernementales des choses qui vont dans le bon sens et qui répondent en partie aux inquiétudes des agriculteurs, mais penser le problème des agriculteurs simplement comme le problème d'un système de production pour les agriculteurs.
Donc ça va au-delà de ça. Il faut penser à la politique globale pour le monde rural, pour les territoires.
Exactement, le vrai sujet, c'est celui-là.
Moi, je suis totalement d'accord avec François. Je pense qu'il ne faut pas se laisser abuser par le côté folklorique, entre guillemets, du salon de l'agriculture. Ça va bien au-delà de ça. Le monde agricole est un monde qui est profondément en crise. Il faut savoir quand même que depuis les années 50, à l'époque où la France était une terre agricole, on a 80% des exploitations agricoles qui ont disparu. Aujourd'hui, on a un agriculteur sur deux qui vit avec 350 euros net par mois pour manger. Enfin, c'est vraiment un monde qui est en train de s'effondrer véritablement sur lui-même. Alors évidemment, c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, mais ce qui est sûr, c'est que l'interpellation hier, bien au-delà du côté « je vous offre une poule, je viens déguiser en vache », etc., ça traduit un malaise qui est profond, qui est réel. Et c'est vrai que du coup, il y a un côté un peu choc des cultures entre ce monde-là, qui est dans cette souffrance-là, et ce jeune président de la République qui veut mettre la France en mode start-up.
Voilà, donc ça ne suffit pas de dire simplement « je vais au contact, j'écoute les inquiétudes ». Eugénie Bastier, vous êtes d'accord avec ce qui est dit?
Oui, je suis d'accord. Et puis la manière dont Emmanuel Macron traite le problème, en fait, la seule solution qu'il avance concrète, c'est 5 milliards d'euros d'investissement. Donc c'est vraiment traiter le problème par l'investissement, en injectant des liquidités, donc en subventionnant cette agriculture. Mais on peut se demander à quoi ça sert si on est dans un marché complètement ouvert où il y a où le les Polonais et le porc allemand sont 25% moins chers que nos productions nationales. À quoi ça sert d'investir de l'argent dans un système pareil? S'il n'y a pas de plan pour reconvertir l'agriculture véritablement dans des circuits durables, notamment des circuits courts, un plan qui avait d'ailleurs été commencé par Le Foll lorsqu'il était ministre de l'Agriculture, qui lui avait l'ambition vraiment de convertir l'agriculture française à l'écologie, au bio, etc., à grande échelle. Si on ne suit pas cette volonté-là, c'est de l'argent jeté par la fenêtre.
Alors, on l'a dit, cette visite du président de la République au Salon de l'Agriculture a donné lieu à un certain nombre d'échanges, parfois houleux, sur beaucoup de sujets, notamment celui-ci, sur l'interdiction programmée du glyphosate, vous savez, l'herbicide utilisé notamment par Monsanto dans son Roundup. Écoutez.
Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont dans les yeux. Ils n'iront pas vous chercher. Sur le sujet du glyphosate, il est très clair, je l'ai dit, qu'on le sait, il y a 10-20% qui n'ont pas de solution. Ceux-là, on ne leur demandera pas de finir en 3 ans. Et ça, c'est ce qu'a porté la FNSEA, ce qu'elle est en train de finaliser. On le finira dans les prochains jours. Je m'engage à ça.
Voilà Emmanuel Macron hier au Salon de l'Agriculture. Et aujourd'hui, dans le journal du dimanche, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, dit « Je ne suis pas buté. Si dans un secteur particulier ou une zone géographique, certains agriculteurs ne sont pas prêts en 3 ans, on envisagera des exceptions. » Dominique de Montvalon, fermeté quand même de la part du président de la République qu'on a entendu et concession de la part de son ministre.
Non, mais il y a, pour moi, personnellement, il n'y a absolument aucune contradiction là-dedans. D'abord, il y a une sorte de performance politique à force de dire qu'il y avait une poule de louée et un agriculteur caché sous un truc de vache. Bon, ça, c'est l'aspect folklorique de l'affaire. Personnellement, je dis qu'il y a une certaine performance politique, surtout pour le président des métropoles et des villes, à pouvoir nouer le dialogue comme ça. Voyons le fond dans cette affaire. Il se retrouve face à un agriculteur qui se plaint, et il n'est pas le seul, il est donc représentatif de du point de vue français qui souhaite que dans les 3 ans, le glyphosate soit interdit en France. Hein. Bon, si les conditions sont réunies. En Europe, sauf erreur de ma part, c'est 5 ans. On est en avance, etc. Alors, on est dans une contradiction typiquement française, mais c'est bien que les choses émergent comme ça, parce que si ce dialogue-là avait été arbitré, imaginons que le président et le représentant des jeunes agriculteurs se soient trouvés au sein d'une enceinte et qu'il y avait 500 Français choisis par sondage qui auraient été amenés à voter. Est-ce que vous croyez une seconde, quel que soit l'amour réel, massif qu'ils portent aux agriculteurs, est-ce que vous croyez une seconde qu'ils auraient approuvé l'idée de dire que le glyphosate, il fallait continuer et ne pas se poser de questions? La comparaison, elle est quelque part cruelle, elle ne vise pas les agriculteurs, mais elle est très forte, la comparaison avec le problème de l'amiante. On l'a pas trop entendu dans le petit extrait qui est là, mais c'est un truc très fort. Ceux qui avaient à l'époque dit qu'il n'y avait pas de problème avec l'amiante, oui, pour y aller complètement, bon, entre parenthèses, personne ne rendra jamais de compte au tribunal de l'opinion publique, au tribunal de la démocratie française, pour les décisions qui ont été prises à l'époque. Mais c'est quand même fort de dire ça. Alors après, vous avez... je trouve assez amusant, enfin, en tout cas, politiquement intéressant, que ce soit Nicolas Hulot qui, le lendemain, dans les colonnes du JDD, disent, bon, ben attendez, si il peut y avoir des exceptions, si on n'a pas trouvé de solution sur le glyphosate dans les 3 ans, on va pas fermer la boutique. Donc, je pense qu'il y a une dialectique qui me paraît, on est dans un monde complexe. Ça vaut pour presque tout, et notamment pour l'agriculture, et je trouve que c'est bien fait.
Restez avec nous.
C'est bien fait.
On continue de parler du glyphosate, notamment, et de l'interview Nicolas Hulot ce matin dans le journal du dimanche, juste après l'essentiel de l'info. 20h20, Diane Ferschit.
La France et l'Allemagne demandent à Vladimir Poutine d'exercer une pression maximale sur son allié syrien Bachar al-Assad. Le régime continue de bombarder la Ghouta orientale alors que l'ONU a adopté à l'unanimité hier une résolution pour une trêve humanitaire de 30 jours. Près de 530 civils sont morts dans ces raids aériens depuis une semaine. Le pape François demande lui aussi un arrêt immédiat de la violence et une voie d'accès pour l'acheminement de l'aide humanitaire. En République démocratique du Congo, au moins une personne tuée par balle et d'autres blessées par la police lors des marches des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants dans la capitale Kinshasa. La marche avait été interdite par les autorités. Les cheminots hausseront le ton en cas de passage en force. Mise en garde de Philippe Martinez, le leader de la CGT, alors que le gouvernement doit dévoiler demain le calendrier et la méthode choisie pour la réforme de la SNCF. Hier au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron a confirmé vouloir remettre en cause le statut de cheminot à l'embauche. C'est l'un des points les plus sensibles du rapport Spinetta. La 27e journée de Ligue 1 de football, un match nul un partout dans le derby entre Lyon et Saint-Étienne, un résultat qui ne fait pas les affaires des Lyonnais dans la course au podium. Ce soir à 21h, le très attendu classique, le PSG reçoit l'OM.
France Info. Les informés, Simon Le Baron.
Une parenthèse sur Nicolas Hulot, François Hernenveen, le ministre de la Transition écologique, donne ce matin donc dans le JDD sa vision de l'avenir de l'agriculture. Il parle du glyphosate, il encourage les éleveurs et les agriculteurs à se convertir au bio, mais il n'ira pas au salon de l'agriculture Porte de Versailles. Est-ce que vous comprenez ça ?
Mais tout à fait. Il a expliqué lui-même qu'il souhaitait avoir un dialogue moins exposés,
ouais,
moins
loin des regards et des caméras.
Voilà, donc cet argument tient. Et pour poursuivre sur ce que disait Dominique tout à l'heure, y compris sur sa position sur le glyphosate, comme ministre, il doit bien voir que des ultimatums, pratiquement, il aura à gérer le fait que dans des pans entiers du territoire, il y aura un peu de résistance. Un certain nombre d'agriculteurs sont pas prêts à faire ce saut qualitatif.
Surtout qu'on sait pas, on ne sait pas s'il y aura vraiment quelque chose qui sera trouvé pour remplacer le glyphosate.
Alors, la FNSA doit présenter en ce début de semaine ses alternatives au glyphosate.
Ce point de vue est très intéressant. J'ai interrogé des agriculteurs. Ouais. Il y en a un certain nombre qui disent, à condition d'approcher la terre de manière différente, il est possible aujourd'hui de travailler la terre sans recours au glyphosate. Donc, des pistes existent, mais on peut très bien imaginer que du point de vue d'un ministre, il n'entre pas dans la conversation en disant dans 3 ans, il y aura une guillotine qui tombera sur les agriculteurs.
D'ici, on est à 95% d'arrêt du glyphosate.
Le significatif, c'est que quand même, il y a une intention, il y a une décision prise, et cette décision, elle est bonne. Et ils se sont battus contre des lobbies agricoles européens qui, eux, préféraient des délais plus loin, donc
absolument.
D'esquiver le débat. Là, franchement, ils ont fait le job. Ils continuent à le faire, je pense, assez loyalement.
Hervé Gautreau.
Oui, moi, je crois qu'ils se partagent le travail entre Emmanuel Macron et son gouvernement, parce que c'est pas seulement Nicolas Hulot, hein, c'est Stéphane Travert
aussi,
dès janvier, a dit,
on va essayer de sortir d'ici 3 ans du glyphosate.
Et je pense qu'au président de la République, le principe de précaution, de dire, on a des doutes quand même assez sérieux sur le glyphosate, et je pense que de ce point de vue-là, aucun agriculteur n'a particulièrement envie de s'intoxiquer avec des produits qui risquent de nous donner le cancer. Et de nous intoxiquer aussi. Donc ça, c'est la première chose. Et au gouvernement, en revanche, on va dire le principe de réalité, c'est 9000 tonnes par an de glyphosate qui est vendu en France, dont 7000 qui est consommé par les agriculteurs. En fait, c'est le produit phytosanitaire le plus vendu au monde. Et donc, personne n'a envie de continuer avec le glyphosate, mais simplement, il faut trouver effectivement d'autres solutions. Et là-dessus, même la FNSEA, y travaille très sérieusement.
Et doit présenter donc ses alternatives dans les prochains jours. François Hernandez.
Empiriquement, je crois qu'on peut dire que la conscience des dangers, aujourd'hui, commence à pénétrer assez largement le monde agricole. Eux-mêmes n'ont pas envie de s'exposer. Il y a des risques réels, enfin, en tous les cas, des doutes sérieux.
Eugénie Bastier.
Eugénie Bastier voulait intervenir depuis tout à l'heure.
Oui, c'est parce que ça nous montre que là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est-à-dire qu'il faut à un moment poser la décision pour qu'ensuite des alternatives soient trouvées. Parce que si à un moment on ne dit pas on va sortir de ce système-là, c'est comme pour le nucléaire. Évidemment, on ne trouvera jamais d'alternative. Et là, on a dit voilà, on va sortir du glyphosate. Et enfin, la FNSA a dit bon, on va chercher des alternatives. Ils vont en proposer 200 solutions. Ça montre vraiment que la volonté politique est clé pour basculer et changer de système, et là on est vraiment à la croisée de deux systèmes, c'est-à-dire que ce vieux système d'agriculture industrielle intensive issu des Trente Glorieuses, qui a été la corde avec laquelle les agriculteurs français se sont pendus, ce système-là est mort, et on voit qu'il n'est pas viable dans un monde, encore une fois, un marché ouvert où on est en concurrence avec d'autres systèmes industriels qui sont avec des bas coûts encore plus, qui tirent à la baisse l'ensemble du marché. Donc l'avenir, évidemment, comme l'a dit Nicolas Hulot, au bio, au circuit court et à la qualité, et je crois que le basculant, il doit être enclenché par une volonté politique par le haut. Et donc, c'est bien que Emmanuel Macron ait pris cette décision.
Sur le bio, justement, vous disiez tout à l'heure, certains éleveurs, agriculteurs gagnent 350 euros par mois. Est-ce qu'on peut demander à ces gens-là de se convertir au bio?
Ceux qui s'en sortent mieux, ce sont justement ceux qui se sont convertis déjà au bio. Oui.
Ceux qui sont sur les marchés de niche s'en sortent nettement mieux que les autres.
Dominique de Montvalon.
D'ailleurs, pour la première fois, je
précise que Nicolas Hulot évoque un fonds assurantiel aujourd'hui pour les agriculteurs qui se convertiraient.
Cette mutation, elle est coûteuse psychologiquement et financièrement, mais elle est parfaitement possible. Je me place du point de vue du consommateur. J'aimerais bien personnellement, si je le dis, si je pense que d'autres peuvent éventuellement le penser, que les références bio soient simplifiées pour les consommateurs, soit authentifié, parce qu'il y a quelquefois du vrai bio et du faux bio, et que ça fait partie aussi de la mutation, et qu'il y a aussi le consommateur. Si on n'y croit qu'à moitié, ou si on nous vend du bio frelaté, je dis c'est marginal, mais ça existe quand même. Donc ça fait aussi partie des changements.
Les circuits courts surtout aussi, parce qu'on peut avoir du bio s'il vient très très loin. C'est plus vraiment du bio.
Absolument.
Et surtout, enfin, privilégier
la suite du raisonnement implique qu'on redéploie les aides. Si on s'est fixé un objectif politique d'encourager le développement du bio, c'est-à-dire que les aides soient orientées vers les secteurs qu'on imagine innovants et qu'on cesse de soutenir.
Il y avait un agriculteur qui proposait que les aides, au lieu d'être distribuées sur la surface, en fonction de la surface, donc en privilégiant les grandes surfaces, soient distribuées en fonction de l'emploi que génèrent les exploitations, qui serait peut-être une manière de rémunérer plus sainement une agriculture plus responsable.
Les informés France Info continuent dans 5 minutes, juste après la météo et l'info. Nous allons parler de la réforme de la SNCF notamment et de l'action des Nations Unies, de ce qu'on appelle la communauté internationale vis-à-vis de la Syrie et du sort des habitants de la Ghouta orientale. A tout de suite.
France Info Trafic, avec Antargaz, fournisseur de gaz naturel pour les entreprises, les professionnels et les collectivités. Plus d'infos sur gaznaturel.antargaz.fr.
On jette un œil aussi à vos conditions de circulation avec Élise Thibault. Bonsoir Élise.
Bonsoir.
OPC Circulation de France Info, des difficultés en région parisienne en ce dimanche soir?
Oui, c'est redevenu calme sur la plupart des routes du pays. Il reste quelques difficultés cependant en région parisienne. Des ralentissements à un moment de rejoindre Paris et le périphérique, notamment si vous arrivez au sud par la 6, mais aussi sur la 13 en venant de Normandie. Il faut encore quelques minutes pour passer le péage de Mantes-la-Ville. Prudence aussi, ainsi vous circulez en région PACA, de la neige et du verglas qui commence à apparaître déjà en ce moment autour de Nice et Cannes, et ça va s'accentuer dans la nuit.
Merci Élise Thibault.
France Info Météo avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Le froid va continuer de s'accentuer demain, Jean-Pierre Rameau.
Avec la chute des températures, la neige va s'inviter dans le sud-est en seconde partie de nuit et à partir de 300 mètres d'altitude dans le Var, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence, justifiant ainsi la mise en vigilance orange, neige et verglas dans ces départements. Le froid va donc s'intensifier la nuit prochaine. On prévoit moins 5 à moins 10 degrés dans le nord et le nord-est du pays et entre 0 et moins 6 degrés ailleurs. Demain lundi, le temps va rester très nuageux dans le sud-est avec encore de la neige. On attend durant cet épisode de quelques centimètres sur le littoral varois et jusqu'à 10 cm au-dessus de 300 mètres d'altitude. Et partout ailleurs, le soleil va encore dominer dans une atmosphère glaciale. Côté température, n'attendez pas plus de moins 3 ou moins 2 degrés au meilleur de la journée dans le nord-est. Elles seront voisines de 0 degrés ailleurs. Comptez tout de même 4 à 7 degrés dans le sud-ouest et le sud.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30, les informés reviennent juste après l'info avec Martin Bartoletti.
Un classique pour conclure la 27e journée de Ligue 1 de football qui démarre dans 30 minutes. PSG-OM qui peut permettre aux Parisiens de s'envoler en tête du classement en cas de victoire. Un succès phocéen offrirait à Marseille la deuxième place. Match à enjeu à suivre bien évidemment en direct sur France Info. Bye bye Pyeongchang et rendez-vous à Pékin. La Corée du Sud a passé le relais à la Chine pour l'organisation des prochains JO d'hiver. La flamme brillera à nouveau au pays du matin calme le 9 mars prochain pour le début des Jeux paralympiques. Les massacres se poursuivent dans la Ghouta orientale. De nouveaux bombardements ont eu lieu aujourd'hui dans cette zone de Syrie, malgré la trêve votée hier à l'ONU. 400 000 civils subissent depuis une semaine les raids aériens du régime de Damas. Des frappes qui ont fait plus de 500 morts et de nombreux blessés. L'aide humanitaire doit intervenir très rapidement, selon Ziyad Alissa. Il est médecin et président de l'Union des organisations de secours et soins médicaux.
La situation, vraiment, c'est catastrophique. C'est l'enfer. Il y a les bombardements presque en continu. On a eu quand même cet espoir avec la résolution du Conseil de sécurité d'arrêt du feu. Malheureusement, les bombardements n'ont pas été arrêtés complètement parce que dans la résolution, ils n'ont pas dit l'arrêt immédiat. Ils l'ont dit le plus tôt possible.
Il faut des couloirs humanitaires et très vite.
Il faut vraiment des couloirs humanitaires neutres. Et vite, et numéro un, ils ont besoin vraiment que les bombardements s'arrêtent. C'est un massacre, c'est une politique de terre brûlée. Je ne vois pas une guerre ciblée contre un groupe terroriste dans le groupe.
Les premières victimes sont les civils, selon vous?
Oui, oui.
Ziyad Alissa, président de l'Union des organisations de secours et soins médicaux. Il répondait à Benjamin Illy. De nouvelles marches pacifiques en République démocratique du Congo, violemment réprimées par la police. Au moins une personne a été tuée aujourd'hui et deux autres grièvement blessées par balle, selon le directeur de l'hôpital de Kinshasa. Ces rassemblements contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila avaient été interdits par les autorités. Les Alpes de Haute-Provence, le Var et les Alpes-Maritimes placés en vigilance orange pour neige et verglas à partir de minuit. Météo France attend des chutes de neige dans des proportions importantes, une pluie de flocons qui accompagne la vague de froid, des températures proches de moins 10 degrés jusqu'à mercredi. 37 départements ont déclenché le plan grand froid. Il permet d'augmenter les capacités d'accueil d'urgence. 20h et bientôt 33 minutes sur France Info. La suite et la fin des informés, c'est avec Simon Le Baron et ses invités.
Les informés, Simon Le Baron.
Nous sommes toujours avec Hervé Gauthier, rédacteur en chef au service économique et social de France Télévisions, François Hernenveen, rédacteur en chef à La Croix, Dominique de Montvalon, éditorialiste politique, Eugénie Bastier, journaliste au Figaro et rédactrice en chef politique de la revue Limite. Les cheminots se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. C'est demain que le Premier ministre Édouard Philippe présente sa feuille de route pour réformer la SNCF, méthode, calendrier, grands axes de la réforme. Et Emmanuel Macron, dès hier, n'a pas manqué évidemment d'être interpellé sur ce sujet au Salon de l'Agriculture. Écoutez ce qu'a dit le président de la République à un employé de la SNCF attaché à son statut. Et juste après, la réponse ce midi sur France 3 du numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez.
C'est le contribuable qui paye aujourd'hui le statut tel qu'il est. Je ne peux pas avoir d'un côté des agriculteurs qui n'ont pas de jour férié, etc., qui auront parfois pas de retraite, et dire le statut des cheminots, il ne faut pas le changer.
Je lui réponds qu'à chaque fois, il veut diviser ceux qui n'ont pas grand-chose. Il nous a fait le coup entre les retraités et les jeunes. Les retraités qui seraient des privilégiés quand on connaît le montant des pensions des retraités, et les jeunes qui n'auraient rien. Il fait la même chose entre les salariés du public et du privé. À chaque fois, il divise ceux qui ont un petit peu et ceux qui n'ont rien du tout.
Le président de la République divise ceux qui ont un petit peu et ceux qui n'ont rien du tout, d'accord avec la critique de Philippe Martinez, Eugénie Bastier.
Alors écoutez, il y a plein de choses dans ce rapport Spinetta. On va voir ce qui va être gardé, ce qui va pas être gardé. Sur la réforme du statut de cheminot en soi, c'est vrai qu'on peut considérer que ce statut est un peu archaïque, étant donné les conditions actuelles du travail de cheminot, qui n'est plus celui du moment où elles ont été dictées, hein, qui a un travail peut-être moins pénible qu'avant. Après, voilà, il faut voir ce que le projet qu'il y a derrière. Moi, je serais plus inquiète, par exemple, sur la fermeture des lignes programmées par le rapport Spinetta, notamment voilà, 10 000 km de lignes qui seraient fermées, notamment voilà, dans les zones un peu rurales. Ça fait preuve d'un espèce de jacobinisme, encore une fois, libéral, qui consiste à privilégier les grands axes et les grandes... Enfin, l'espèce de métropolisation de la France qui, moi, me semble inquiétante. Et quand dans le rapport Spinetta, il y a écrit, voilà, il faut recentrer le transport ferroviaire sur son domaine de pertinence, les transports au quotidien en zone urbaine et périurbaine et les dessertes à grande vitesse entre les principales métropoles françaises, on voit qu'il y a un choix très clair pour les grandes métropoles, pour les grands axes, et finalement les pauvres et les campagnards, j'ai envie de dire, devront prendre le bus ou la voiture pendant que les urbains prendront Vélib, Uber et TGV. Et je trouve que c'est très très inquiétant, parce que il y a toute une partie de la France qui est laissée de côté.
Mais sur la façon qu'a eu Emmanuel Macron d'opposer les agriculteurs qui n'ont pas de retraite et les cheminots qui ont un statut très favorable, Dominique de Montvalon, sur la critique de Philippe Martinez.
C'est un extrait pris d'un échange. Écoutez, moi, je ne sais pas ce qui sera vraiment sur la table quand les négociations pour de bon s'engageront et ce que le gouvernement tient pour important, voire capital. La situation d'aujourd'hui, c'est que la SNCF, il y a une dette géante. Alors, l'origine de la dette, on peut en discuter, mais c'est une réalité d'aujourd'hui.
Près de 50 milliards d'euros.
La deuxième chose, deuxième observation dans un registre complètement différent, on est obligé, nous Français, de nous préparer à la concurrence européenne. Pas n'importe quelle concurrence européenne, mais ça fait partie d'une logique, sauf à brusquement prôner, comme certains d'ailleurs, le repli sur le précaré, mais global. C'est aussi un défi énorme. C'est c'est dans pas longtemps, il faut pas attendre la dernière minute pour s'y préparer. Et puis j'ai envie de dire dans un tout autre registre, on a le mécontentement ou la frustration de beaucoup d'usagers de la SNCF, hein, parce que les trains n'arrivent pas à l'heure ou des choses comme ça. Mais moi je penserais, parce qu'on dit volontiers le président des villes et puis on oublie les campagnes, mais je pense par exemple à la grande banlieue parisienne. Ceux qui pour des raisons de travail et d'obligation doivent prendre des trains vieillots qui n'ont pas fait l'objet d'une priorité nationale, puisqu'on a fait la priorité absolue sur les TGV, etc., dans des conditions d'encombrement, de presse, etc. Enfin, j'arrête, je vais pas faire... ceux qui le vivent le savent. Et oui. Ceux qui ne le vivent pas, on a demandé à ceux qui le vivent. Hein. Ça veut dire une chose, c'est plus possible de continuer comme ça. Chaque fois qu'un problème est soulevé, effectivement, on n'est pas encore au niveau des choix, là, pour l'instant. Hein, on a mis les cartes sur la table. Mais on peut plus continuer comme ça, à mettre la poussière sous le tapis et dire, on va continuer. C'est pas possible.
On n'est pas encore au niveau des choix, dites-vous. Ouais. Il y a quand même un rapport rédigé par l'ancien PDG d'Air France.
Il est intéressant parce qu'il bouscule tout le monde.
Voilà. Hervé Gauthier, sur la méthode, justement, est-ce que vous avez le sentiment, comme le disent les syndicats, que tout est décidé avant même que les discussions ne soient lancées?
J'en sais rien, mais c'est vrai que tout va être dans la méthode, hein, parce qu'il y a un vrai terrain miné, hein, Eugénie en parlait tout à l'heure, entre les lignes peu rentables, où là, ils risquent de se mettre à dos les régions, et le statut des cheminots, ou le statut de l'entreprise, où là, c'est les syndicats de cheminots qui risquent de se mettre à dos. On va voir comment est-ce que ça va fonctionner. Pour l'instant, il y a une crispation autour du principe de la réforme par ordonnance. Cela dit, on va voir ce que ça va donner. Il ne faut pas oublier que la loi travail, ils sont passés par les ordonnances, sauf qu'avant, il y a eu tout un processus de négociation, de discussion. Et finalement, à l'arrivée, il ne s'est rien passé. Et c'est passé, peut-être pas comme une lettre à la poste, mais enfin, c'est passé. Sur le statut des cheminots, c'est assez habile de dire ce sera pour ceux qui entreront, parce que d'un seul coup, ça démine un petit peu le terrain.
Pour les nouveaux embauchés.
Oui, alors ça s'est déjà fait chez Orange, qui à l'époque s'appelait France Télécom. Ça s'est fait à la Poste. Ça passe plutôt bien. On touche pas au statut de ceux qui sont actuellement dans la maison. Donc, la méthode va être vraiment extrêmement importante à regarder. Je sais pas si on en saura beaucoup plus sur les options réelles qui seront prises par le gouvernement demain. Il serait heureux, à mon avis, de la part d'Édouard Philippe, de dire on se fixe un calendrier, si on a bien compris que ce sera très court, et sur la méthode, on va vraiment se mettre autour de la table et on va rien s'interdire.
Oui, d'autant que les syndicats se réuniront au lendemain de la prise de parole d'Édouard Philippe, donc après-demain, mardi, pour décider d'une éventuelle grève.
Les syndicats qui ont eu la prudence, alors qu'ils se sont rencontrés jeudi en disant on va peut-être lancer un mouvement de grève, de dire finalement on va attendre de voir ce que dit le Premier ministre avant de se revoir mardi pour décider de quelque chose ou pas.
Nous poursuivons cette discussion dans les informés de France Info. Il est 20h40. L'info en une minute avec Diane Ferchit.
Les projets n'étaient pas totalement finalisés, mais depuis janvier, deux attentats ont été déjoués en France. Selon le ministre de l'Intérieur, le premier visait un grand équipement sportif dans l'ouest du pays. Le second prévoyait de s'attaquer à des militaires dans le sud. Gérard Collomb n'a pas donné davantage de précisions sur ces projets déjoués, mais il a indiqué par ailleurs que trois mosquées à Marseille, Sartrouville et Aix-en-Provence avaient été fermées ces derniers mois pour apologie du terrorisme. Une vague de froid glacial s'abat sur la France. Venue de Sibérie, il va faire chuter le mercure jusqu'à moins 10 degrés en plaine, moins 25 en montagne. La Haute-Savoie est en procédure froid extrême. 37 départements ont déclenché le plan grand froid pour prendre en charge les personnes sans abri. À Valence, un SDF de 35 ans a été retrouvé mort ce matin. Il dormait sous le porche d'une église. En Syrie, les raids aériens du régime se poursuivent sur la Ghouta orientale malgré la trêve votée à l'ONU hier. Trêve de 30 jours à but humanitaire qui doit être mise en place le plus vite possible selon Paris, Berlin et Moscou. Emmanuel Macron et Angela Merkel demandent à Vladimir Poutine de mettre une pression maximale sur Damas. Les deux principaux groupes rebelles contrôlant la Ghouta orientale se sont, eux, engagés à respecter le cessez-le-feu réclamé par les Nations Unies. Le top 14 de rugby, 18e journée, et Toulon arrache la victoire à La Rochelle, 27 à 20. Un peu plus tôt, Toulouse s'est imposée contre Brive, score final 45 à 28.
France Info. Les informés, Simon Le Barreau.
C'est donc une semaine essentielle qui va commencer demain pour l'avenir de la SNCF avec Édouard Philippe, le Premier ministre, qui va préciser, je l'ai dit, la méthode, le calendrier, les grands axes envisagés par le gouvernement pour transformer le rail français. Et puis mardi, les syndicats de cheminots qui vont se réunir. François Hernenveen, sur la méthode, justement, ça va être vraiment ça l'essentiel demain à attendre du Premier ministre ?
Certainement, il va essayer de déminer un peu les tensions que... est susceptible de provoquer le rapport Spinetta.
Et a commencé déjà à provoquer.
Voilà, voilà. Mais sur le fond, quand même, il y a une question, moi, qui m'obsède quand j'observe la politique gouvernementale. L'objectif de rationalisation d'économie dans le cas de la SNCF, ça saute aux yeux. C'est parfaitement défendable comme projet. Dans la couverture médicale en France, même problème. Pourquoi maintenir des choses qui, aujourd'hui... en termes de rentabilité, ne se justifie pas. Moi, je reconnais au gouvernement le mérite de porter le fer là où étaient en jachère, encore une fois, des questions assez essentielles. Mais sur le plan de la méthode, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement important. Si on entre dans cette logique de déconstruction de ce qui ne fonctionne pas, il faut accepter d'engager avec les usagers, des services publics, etc., un dialogue sur les solutions de substitution. Si on se contente de dire on va faire des économies, on n'est porteur d'aucun projet, sauf celui d'économiser. Mais économiser pourquoi ? Ça sert à quoi d'économiser ? En matière de services publics, l'objectif des services publics, c'est de servir le public. Donc j'espère qu'on va maintenir cet objectif. Et pour être concret, pour pas faire un cours de théorie politique, oui. Si on décide de supprimer des lignes de chemin de fer... là où, pour 2% des passagers, il y a 20% des dépenses. Ok, mais qu'est-ce qu'on met à la place ? Qu'est-ce qu'on installe pour que les gens puissent circuler de Brive à Châteaudun, par exemple ? Ben voilà.
Eugénie Bastier.
Non, mais ce sera des bus, hein, mais c'est moins confortable, c'est plus polluant, c'est pour les personnes âgées,
sur
c'est
la question,
difficile.
Sur la question de la pollution, une locomotive diesel avec deux passagers dans le train, elle pollue plus qu'un bus.
Oui, bien sûr, mais... Après, c'est la philosophie générale du projet qui est dérangeante. C'est-à-dire, en effet, ces objectifs de rentabilité. Enfin, le service public est là, justement, pour répondre là où il n'y a pas d'offre, où il n'y aurait pas d'offre dans le privé, justement. C'est-à-dire que c'est la même chose pour la poste. Et on voit, par exemple, toutes ces postes qui ferment dans les petits villages, à la campagne. Et en fait, il n'y a plus aucun service public. Il n'y a plus de présence de l'État dans certaines zones. C'est problématique parce que l'État n'est pas soumis, justement, aux exigences de rentabilité du privé. Et moi, par exemple, je vais prendre un exemple particulier, mais je viens d'une petite ville qui s'appelle Pibrac et qui est entre Toulouse et Hoche, il y a une ligne de TER qui est concernée par le plan Spinetta et donc qui va peut-être être supprimée, ce qui ferait que le Gers, par exemple le département du Gers, n'aurait plus de ligne de chemin de fer à l'intérieur du département. Donc c'est un département qui sera complètement enclavé et qu'on n'aura plus accès en train, et je trouve ça quand même très problématique, sachant qu'il y a énormément de bouchons déjà autour de Toulouse pour des histoires particulières de rocades, etc. Je ne sais pas comment concrètement on va faire pour relier ce département voisin à Toulouse. C'est une question concrète. Et puis, encore une fois, dans ce gouvernement qui veut faire preuve d'écologie, il me semble que le train, c'est quand même une des solutions les plus écologiques.
On verra, pour l'instant, ce ne sont que des propositions. On verra quelles sont les options retenues par le gouvernement. Un dernier mot sur ce sujet. Hervé Gauthier, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, s'est étonné, dans ce même studio d'ailleurs, ce midi, sur France Inter et France Info, de la drôle de manière de procéder, selon lui, de certains syndicats, qui prévoient déjà une journée d'action avant même de voir les propositions sur la table, justement.
Je crois que les syndicats, ils essayent de pousser un petit peu leur avantage pendant qu'ils peuvent encore. Il ne faut pas oublier aussi que au mois de novembre de cette année, il va y avoir des élections professionnelles. Hein. Donc c'est aussi un petit peu une histoire de course à l'échalote entre les syndicats, entre la CGT, Sud, la CFDT. Et bon, le gouvernement, lui, à mon avis, il est en train d'essayer de se dire de jouer justement l'avantage en se disant que les syndicats ne sont peut-être pas tant que ça en mesure d'affronter, d'être sur ce rapport de force-là. Ils ne savent pas exactement quelle troupe, entre guillemets, ils ont. On n'est pas du tout dans le même type de construction qu'en 95, hein, où il y avait un phénomène de grève de substitution, où il n'y avait pas que la SNCF qui était en grève, il y avait aussi la RATP. Là, on est dans un contexte qui est complètement différent, et je pense que les cheminots sont bien conscients du fait que eux-mêmes vont devoir avancer sur un terrain qui
va pas être facile à vendre, si j'ose dire, à l'opinion publique s'ils doivent rentrer dans une grève.
Rendez-vous donc demain pour cette nouvelle étape très importante sur l'avenir de la SNCF. On suivra évidemment la prise de parole du Premier ministre Édouard Philippe très largement sur France Info. Comment croire encore en la force de la diplomatie quand on apprend aujourd'hui que le régime de Bachar al-Assad et la Russie continuent de frapper la Ghouta orientale quelques heures seulement après le vote d'une trêve humanitaire d'un mois aux Nations Unies? Je ne pense pas que cette décision sera appliquée, c'est ce que dit aujourd'hui à nos confrères de l'AFP l'un des habitants de cette enclave syrienne tenue par les rebelles et assiégée depuis 2013. Nous sommes habitués à la trahison. Et pendant ce temps, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont parlé au téléphone ce midi. Ils sont tombés d'accord, nous dit-on, pour poursuivre les efforts communs et renforcer l'échange d'informations sur la situation en Syrie. Ça prêterait presque à sourire, Dominique de Montvallon, si ce n'était pas aussi dramatique.
Non, mais ce que vivent les habitants les survivants de cette enclave est absolument atroce. Quand on en voit les images, on en est bouleversé. C'est suprapolitique ou infrapolitique. C'est terrifiant. Bon. En même temps, une fois qu'on a dit ça, ça ne sent rien justifier de ce qui s'est passé jusqu'ici, de ce qui se passe ou ne se passe pas aujourd'hui. Deuxième chose, la situation qui est là est imputable à l'action d'un certain nombre de groupes qu'on peut pas brusquement oublier dans l'analyse.
Vous parlez des groupes djihadistes cette enclave.
Absolument. Non, mais justifie rien. Je le mentionne. Maintenant, sur le fond, je pensais, on peut revenir très loin en arrière à De Gaulle qui parlait du machin en parlant de l'ONU, mais on va pas découvrir aujourd'hui que l'Assemblée des Nations à l'ONU agit dans un monde complexe, dans un monde plein de contradictions, n'a pas les coudées franches et qu'elle doit intégrer les contradictions de la situation géopolitique qui prévaut. Pardon de le dire de façon, pour le dire plus simplement, on est bouleversé par ce qui arrive à ceux qui sont sous les gravats, les enfants, les femmes et d'autres d'ailleurs, etc. C'est absolument... Et on espère que la trêve pourra... Mais d'un autre côté, soyons pas naïfs, il y a des enjeux énormes...
Bien sûr, mais quand on lit le récit de ce qui s'est passé ces derniers jours aux Nations Unies,
je vous pose la question, mais c'est vous qui me posez, vous avez raison.
Les réunions, les diplomates qui organisent un somptueux dîner à quelques heures d'un vote décisif, ça paraît ubuesque, c'est tout ce que je dis.
Oui, non, mais d'abord, tous les points de vue sont et toutes les questions sont recevables. Mais moi, je vous dis simplement, j'espère que la trêve sur laquelle il semble s'être mis d'accord,
ça
n'a que trop tardé, sera véritablement mise en application. Mais soyons pas naïfs, il y a des enjeux géostratégiques qui se passent là, qui sont terrible et qui explique la situation d'impuissance de l'ONU. C'est pas nouveau.
Eugénie Bastier.
Oui, tout ce qui se passe là-bas est atroce. De toute façon, tout ce qui se passe dans cette guerre en Syrie est atroce depuis des années maintenant. Simplement, il y a quand même une guerre de l'image qui est menée et il faut quand même remettre les choses en place. Je veux dire, la libération de Mossoul par les forces irakiennes et occidentales, c'est 5800 civils qui ont été tués entre février et juin 2017, c'est-à-dire presque deux fois plus qu'à Alep. La libération d'Alep par les Russes, où il y a eu 2800 civils tués et où, évidemment, il y avait une guerre des images, puisque...
Des centaines de milliers d'habitants assiégés pendant des années.
Bien sûr, mais il y a eu plus de morts dans la libération de Mossoul que dans la libération d'Alep. Simplement, il n'y avait pas d'images, puisque c'était tenu par Daesh et que Daesh ne laissait pas rentrer les caméras. Donc, il y a aussi une guerre de l'image, une asymétrie de l'information et un deux poids deux mesures dans le traitement de ce qui se passe en Syrie depuis plusieurs années. Ça, il faut le dire. Cela n'empêche pas, évidemment, qu'il doit y avoir une résolution internationale du conflit et que Bachar al-Assad commet des actes atroces, voire même est un boucher. Mais simplement, il faut quand même ouvrir les yeux sur ce deux poids deux mesures dans le traitement du conflit. Et aussi, il y a une impuissance stratégique de l'Occident qui est inaudible sur ce sujet parce que, à cause tout simplement de ce qui s'est passé en Irak et en Libye, deux dernières interventions catastrophiques. Et aujourd'hui, l'Occident n'a plus la main et il est impuissant. Et c'est Poutine et l'Iran aujourd'hui qui ont la main en Syrie.
20h50, les informés de France Info continuent. L'essentiel tout de suite avec Diane Ferchit.
Et dans moins de 10 minutes, le très attendu classique entre le PSG et l'OM. En cas de succès, Paris pourrait prendre 14 points d'avance en tête de la Ligue 1. Du côté des Marseillais, la victoire leur permettrait de ravir la deuxième place au Monégasque. Deux hommes en garde à vue à Toulouse après l'agression de deux policiers la nuit dernière. Les deux agents attaqués alors qu'ils intervenaient pour un cambriolage. L'un des deux malfaiteurs était déjà connu des services de police. Ils seront déférés au parquet demain. Un enfant de 12 ans fait une chute mortelle d'une falaise en Haute-Savoie. Il était parti skier avec son frère de 10 ans. Les deux enfants étaient seuls. Le plus jeune est un miraculé. Selon les secours, il a survécu à la chute de 150 mètres à la verticale. Blessé sérieusement, il a été héliporté vers un hôpital lyonnais. Berlin et Paris demandent à Moscou d'exercer une pression maximale sur le régime syrien. Des bombardements ont à nouveau touché le fief rebelle de la Ghouta orientale aujourd'hui, alors que l'ONU réclame une trêve. Elle a adopté hier une résolution pour un cessez-le-feu humanitaire de 30 jours. Aux États-Unis, les rescapés de la fusillade de Floride retourneront dans leur lycée demain. C'est là qu'un jeune homme de 19 ans a ouvert le feu il y a 10 jours, tuant 17 personnes. Un rassemblement est prévu le 24 mars à Washington pour réclamer un contrôle plus strict sur les armes.
France Info.
Les informés, Simon Le Baron.
Sur ce que l'on vient d'entendre, François Hernenwein, la France et l'Allemagne, après cet entretien donc entre Macron, Merkel et Poutine, demandent à la Russie de mettre la pression sur Bachar al-Assad pour arrêter les bombardements sur la Ghouta orientale. À quoi joue la Russie ?
C'est une formidable forme d'aveu de ce qu'a été toutes ces dernières années l'impuissance occidentale, du camp occidental, dans cette partie du monde. Du coup, la Russie a pris la main, mais la Russie est d'un cynisme formidable sur le terrain. À l'ONU, elle vote la résolution en faveur des couloirs humanitaires, mais elle est incapable, elle n'a pas la volonté d'imposer ni à l'Iran, ni au régime syrien, qui sont tendanciellement ses clients, d'empêcher leurs actions sur le terrain. Vladimir Poutine, qu'on présente aujourd'hui comme celui qui a restauré la grandeur russe, a réussi une opération quasiment de voyou dans cette partie du monde, avec comme toile de fond l'impuissance occidentale, c'est tout. Mais aujourd'hui, son incapacité à retenir les mains iraniennes, empêcher...
Il est aussi impuissant que nous, c'est tout.
Il est aussi impuissant que nous.
Voilà.
Et je voudrais déconstruire à cette occasion l'image de l'autorité russe retrouvée...
Il n'a pas le goût de s'embourber comme nous.
Qui tirerait les ficelles.
Voilà.
Ce n'est pas le cas,
en fait. Et à mon avis, cette histoire va se terminer très vite, parce qu'il n'a pas non plus envie de s'enliser là-bas. Il aura contribué à la victoire de Bachar el-Assad à venir, et ensuite il retirera ses billes.
À la défaite des terroristes.
Il n'en tirera de bénéfices politiques que marginal.
Hervé Gautreau.
Oui, Poutine, effectivement, marque sa propre impuissance, mais c'est pire que ça. On soupçonne même les Russes de participer aux exactions à la Ghouta. Et puis, on parle des Russes, et puis il faut aussi parler de l'Iran, il faut parler de la Turquie, où les Kurdes continuent de se faire massacrer à Afrin, parce que finalement, la Ghouta, c'est très spectaculaire. On parlait de guerre d'image tout à l'heure, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc, on voit bien qu'on est dans quelque chose d'extrêmement complexe, qui nous échappe complètement. Alors, c'est sûr qu'il y a un sentiment d'impuissance totale, mais on a envie de dire, finalement, le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est mieux que rien, parce que de toute façon, à part maintenir le dialogue, à part la possibilité pour Macron et Merkel d'appeler Poutine pour essayer de faire en sorte qu'il convainque Assad de se calmer sur la Ghouta, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Oui. Cela dit, au passage, ça pose aussi la question du droit de veto qui permet à la Russie de bloquer tellement souvent les résolutions de l'ONU dans cette zone. Et puis pour finir, je pense qu'aussi... on n'ose plus trop bouger parce que il y a un autre spectacle face auquel on risque d'être impuissant et qui risque d'être terrible. C'est la préparation de la suite après la victoire, on va dire programmée, de Bachar el-Assad. C'est la guerre qui risque de se déplacer au Liban entre Israël et l'Iran et qui va continuer de mettre le feu dans cette région.
Il y a eu d'ailleurs un échange très vif, disons ça comme ça, entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères iranien il y a quelques jours à la conférence sur la sécurité à Munich, effectivement, qui révèle les tensions très fortes entre ces deux pays, François Hernenwein.
Mais ce qui est intéressant là, et si Poutine vous laisse refaire une virginité, il devrait tenir compte d'un rapport de force qui lui est tendanciellement favorable aujourd'hui pour effectivement faire des propositions allant dans le sens de la paix plutôt qu'en armant les meurtriers.
Dominique de Mevrallon, pour terminer, en 30 secondes, on est presque à la fin de l'émission. Vous disiez tout à l'heure, la victoire de Bachar al-Assad contre les terroristes. Ça pose la question de savoir qui on considère comme terroriste. Le régime syrien et la Russie considèrent tous les groupes, y compris les groupes rebelles, comme terroristes. Et donc, ça leur permet de continuer les combats aujourd'hui dans la Ghouta orientale.
Écoutez, j'espère que... Je ne sais pas de ce qui va sortir de ces tragédies à répétition. J'espère simplement que tous les terroristes, les officiels, les officieux, ceux qui sont manipulés par les uns, par les autres, etc., seront à terre parce qu'on en a besoin.
Sinon, Eugénie Bastier. Dans la Ghouta, il faut quand même dire qu'il y a deux factions rivales qui sont à la guerre. Une qui s'appelle l'Islam Army et qui est un groupe salafiste extrêmement radical. Et l'autre qui s'appelle Islam Free Army, Syrian Army, et qui est un groupe affilié aux Frères musulmans. Donc dans les deux cas, ce sont des islamistes plus ou moins radicaux, mais il n'y a pas véritablement d'opposition démocratique. Ça, c'est terminé. Donc ça pose la question, en effet, de qui est pour remplacer Bachar al-Assad aujourd'hui, après que l'opposition démocratique ait été complètement décimée.
Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Les Informés. Eugénie Bastier du Figaro et de la revue Limite, Hervé Gauthier de France Télévisions, du service économie et sociale, François Hernenwein de La Croix et Dominique de Montvallon, éditorialiste politique. Merci de nous avoir suivis ce soir. Il est 20h58. Dans quelques secondes, l'info continue évidemment sur France Info, à la radio et à la télé, sur le canal 27 de la TNT, sur Internet aussi évidemment, franceinfo.fr. Excellent dimanche soir à toutes et à tous.